Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonsoir à tous. Nouveau retournement de situation dans le feuilleton du Brexit. L'Union européenne accepte un report flexible jusqu'au 31 janvier pour notamment permettre la tenue d'élections législatives en Grande-Bretagne. Mais dans la soirée, le Parlement britannique a rejeté la possibilité d'élections législatives anticipées le 12 décembre, comme demandé par Boris Johnson. Explication de notre correspondant à Londres, Antoine Gignot. Nous irons à Beyrouth, où la contestation contre le gouvernement continue. Après la chaîne humaine de 170 km hier, les manifestants tentent de paralyser le pays, avec de nombreux barrages routiers notamment. En France, des coups de feu ont été tirés près de la mosquée de Bayonne. Aujourd'hui, deux personnes sont grièvement blessées. Le tireur qui voulait incendier la porte de la mosquée a été interpellé à son domicile. Plus de précisions dans un instant. Et puis le trafic SNCF toujours perturbé demain sur la ligne TGV Atlantique. Les tensions se multiplient à l'approche notamment de la transformation de la SNCF en société anonyme dès janvier, accompagnée de la disparition du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Nous y reviendrons avec notre invité, Marc Ivaldi, spécialiste en économie du ferroviaire. À la fin de cette édition. Il est 22h, vous êtes bien sur France Culture. Le feuilleton Brexit joue encore les prolongations. Ce matin, l'Union européenne a donné son feu vert pour un report flexible du divorce jusqu'au 31 janvier 2020. Un report justifié entre autres par la tenue d'élections législatives en décembre en Grande-Bretagne. Une décision validée à contre-cœur par Boris Johnson, le Premier ministre, qui a demandé à l'Union européenne d'exclure tout autre report après le 31 janvier. Mais dans la soirée, les députés britanniques ont rejeté la tenue d'élections anticipées le 12 décembre. Antoine Gignot, vous êtes en direct de Londres. Ces élections était ardemment souhaité par Boris Johnson.
Oui, c'est même la clé de son avenir politique à Boris Johnson. Si le Premier ministre veut reprendre la main, s'il veut faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne avant la fin du mois de janvier, il lui faut à tout prix une majorité à la Chambre des communes et il lui faut donc des élections. Le Parlement ne peut pas garder plus longtemps ce pays en otage, dit-il, sans réussir à vraiment convaincre. La tentative de cet après-midi de déclencher des législatives anticipées s'est soldée pour la troisième fois par un échec. Il aurait fallu que le Premier ministre réunisse les deux tiers des voix pour réussir à organiser un scrutin. Pas de quoi le décourager pour autant. Il va de nouveau proposer aux parlementaires d'organiser des législatives le 12 décembre prochain, demain, en déposant un projet de loi sur le sujet. Pas sûr pour autant qu'il y parvienne. Les libéraux-démocrates, notamment, préféreraient un scrutin le 9 décembre, à une date où les étudiants ne sont pas encore en vacances et susceptibles de voter. Ce n'est pas anodin. Les 18-25 ans sont majoritairement contre le Brexit et cette guerre des dates pourrait aussi bloquer les débats autour de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Londres et Bruxelles.
Les explications à Londres d'Antoine Gignot. Le corps du leader de l'organisation État islamique Abu Bakr el-Baghdadi, mort dimanche, a été immergé en mer. Inhumation en mer qui rappelle celle d'Oussama Ben Laden en 2011, choisie pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Par ailleurs, le Pentagone annonce que deux hommes ont été faits prisonniers par l'armée américaine pendant l'opération et signe que la lutte contre Daesh continue. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la coalition anti-État islamique se réuniront le 14 novembre prochain à Washington. Une chaîne humaine de 170 km. Les images de joie des manifestants libanais font le tour du monde. Une unité et une détermination à faire partir la classe politique au pouvoir symbolisée par cette chaîne. Mais il n'y a pas que des chaînes, il y a aussi des barrages routiers qui ont été renforcés aujourd'hui par des manifestants. Une correspondance à Beyrouth de Chloé Doma.
Le pays est toujours paralysé. Banques, écoles, universités fermées. Idem pour les administrations et de nombreux magasins. Sur la place des Martyrs, centre névralgique de la mobilisation à Beyrouth, les manifestants ont installé des tentes, des générateurs et des kiosques. Et c'est un des faits marquants ces derniers jours. On assiste à une réappropriation de l'espace public par les Libanais. Beaucoup d'initiatives citoyennes, ramassage des déchets le matin, distribution d'eau, de nourriture, mais bien sûr aussi de plus en plus de débats et de cercles de réflexion pour tenter d'organiser la suite du mouvement. Aujourd'hui encore, la plupart des grands axes routiers du pays sont bloqués. Les manifestants tiennent des barrages. Le but, empêcher les Libanais de se rendre au travail et décentraliser le mouvement, pousser les gens à manifester dans les régions. Paris jusqu'à présent réussit, puisque l'ensemble du pays reste mobilisé. De Tripoli, la grande agglomération sunnite du nord, en passant par Jalaldib, la banlieue chrétienne de Beyrouth, et jusqu'au sud, des villes à majorité chiite comme Nabatieh ou Tyr. Les promesses des dirigeants n'y font rien, les menaces non plus. Les manifestants tiennent la rue et ils y restent.
Une correspondance à Beyrouth de Chloé Doma. À peine élu, le nouveau président argentin de centre-gauche, Alberto Fernandez, s'est déjà fait un ennemi. Il s'agit de Jair Bolsonaro. Le président brésilien estime que l'Argentine a mal choisi son nouveau président. Le FMI, lui, a eu une bonne réaction, se disant impatient de travailler avec la nouvelle administration. En France, des coups de feu ont été tirés près de la mosquée de Bayonne. Aujourd'hui, deux hommes sont blessés. Le tireur présumé a été interpellé. Il s'agit d'un homme de 84 ans, ancien membre de l'Éducation nationale et ex-candidat au régional de 2015 pour le Front national. Sur Twitter, Christophe Castaner a exprimé sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane. Marine Le Pen dénonce un acte inqualifiable. Les explications de Corinne Audouin.
Peu après 15 heures, un homme tente d'incendier la porte latérale de la mosquée de Bayonne. Surpris par deux hommes âgés de 74 et 78 ans, l'assaillant leur tire dessus avant de mettre le feu à un véhicule, puis de s'enfuir au volant de sa voiture. Écoutez le récit de ce témoin, recueilli par Nathalie Baldassarian de France Bleu Pays Basque.
J'ai vu une voiture qui était en train de prendre feu. Il y avait quelqu'un en dessous, une victime. Je l'ai tiré avant que la voiture elle explose, puisqu'elle était déjà bien en feu. J'ai tiré le monsieur était rempli de sang, donc j'ai mis en position latérale de sécurité, il a pris des balles, donc on a quand même appelé le secours avant et je prenais soin de lui parler, de voir que de le garder éveillé. Il y a une autre personne qui était, elle a pris une ou deux balles au niveau du bras. Et les deux, donc, ils ont été amenés par le SAMU à l'hôpital.
Grâce à son numéro d'immatriculation, le tireur est identifié et interpellé un quart d'heure plus tard près de son domicile à Saint-Martin-de-Seignance. À ses côtés, une arme de poing qu'il aurait tenté de saisir avant d'être désarmé par un policier. En garde à vue, l'homme, âgé de 84 ans, ancien candidat local du Front National, reconnaît les faits. À ce stade, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de l'affaire. C'est donc le procureur de Bayonne, qui est en charge de l'enquête, confié à la police judiciaire.
Et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place à Bayonne ce soir. Le trafic SNCF sera encore perturbé demain. Un TGV Atlantique sur trois va circuler à cause d'une grève au technicentre SNCF de Châtillon, dans les Hauts-de-Seine, avec 200 grévistes sur 700 salariés qui appellent à un rassemblement demain à 14h devant le siège de la SNCF à Saint-Denis. Les explications d'Hakim Kasmi.
C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre les agents du Technocentre de Montrouge et la direction de la SNCF. Les syndicats exigent toujours le paiement des jours de grève et une prime de 3000 euros pour reprendre le travail. Une demande rejetée catégoriquement par la direction qui rappelle avoir, pour l'instant, retiré son plan consistant à supprimer 12 jours de congés par an. Un avantage négocié localement il y a de nombreuses années qui ne se justifie plus aujourd'hui, estime-t-elle. Mais au-delà de ce mouvement, il règne un véritable malaise ces derniers mois à la SNCF et l'accident du TER dans les Ardennes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car au-delà des mesures de productivité, avec la suppression de postes, la réforme ferroviaire ne passe toujours pas chez les agents. Avec la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à partir du 1er janvier, tout comme la transformation de l'entreprise en société anonyme, ou encore l'ouverture à la concurrence pour les TGV d'ici un an, auxquelles s'ajoutent les négociations actuellement sur les retraites. Autant de chantiers qui ne risquent pas d'apaiser le climat social, d'autant que la fin de l'année s'annonce déjà compliquée, avec un appel à la grève prévu le 5 décembre, appel qui pourrait être reconductible.
Les précisions d'Hakim Kasmi. Pour en parler avec nous, Marc Ivaldi, directeur d'études à l'EHESS, spécialiste en économie du ferroviaire et des transports. Bonsoir Marc Ivaldi.
Et bonsoir.
Alors on l'a dit, de nombreux sujets de discorde qui se cristallisent en ce moment. Pourtant, dès janvier 2020, un nouveau pacte social doit voir le jour après négociation entre cheminots et la direction de la SNCF. Alors est-ce qu'un consensus est complètement impossible ou est-ce que chacun montre simplement ses muscles pour impressionner l'autre en prévision de ces discussions?
Oui, c'est clairement une situation tendue. C'est le moment où il va y avoir un nouveau président de la SNCF. Il faut donc lui montrer que les syndicats sont là, lui montrer qu'il y a des problèmes, que c'est pas si simple de proposer, comme il l'a fait à l'Assemblée, que tout le monde soit polyvalent. Donc effectivement, c'est une période de tension. La réforme a été mise en place. Elle a permis facilement de résoudre un certain nombre de problèmes puisque on a enlevé, l'État s'est engagé à prendre à sa charge une partie de la dette, mais il reste effectivement la mise en place de, pas ce nouveau statut, mais de cette nouvelle façon de gérer les personnels qui vont arriver, qui vont rentrer sur des contrats privés, c'est-à-dire hors du statut des cheminots de l'ancien statut. Donc ça, évidemment, ça crée des tensions. Ça crée des tensions parce que il n'est pas impossible que ceux qui rentrent maintenant aient des salaires plus élevés que ceux qui sont sous le statut. Et deuxième chose, évidemment, il y a cette crainte de ce qui risque de se passer avec la concurrence.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de choses d'un coup là, entre l'État qui réclame des gains de productivité pour revenir à l'équilibre financier en 2022 en prenant une partie des dettes, plus l'ouverture à la concurrence dès 2020, c'est très bientôt pour les TGV et certains TER. Est-ce qu'il n'y a pas trop de choses d'un coup? Est-ce que c'est pas inconciliable? À plus la réforme des retraites aussi, du statut?
Disons que peut-être se cristallise parce que effectivement. On est à 2 mois maintenant de la mise en place de nouveau statut de la SNCF qui devient un statut privé. Et effectivement, à partir du moment où la SNCF devient privée, elle ne peut plus utiliser l'État comme moyen de couvrir toujours ses déficits. En effet, si ces déficits sont trop importants, ils peuvent être considérés comme des aides d'État par la Commission européenne. Et donc, quelque chose qui pourrait ralentir ou ne pas favoriser en tout cas l'émergence de la concurrence. Le vrai élément de changement, c'est qu'au 1er janvier, la SNCF devient une entreprise de statut privé et elle ne pourra pas en permanence être déficitaire, ce qui oblige nécessairement à des gains de productivité, à des changements. Et donc, évidemment, pour les personnels, la peur que les choses changent en leur défaveur.
C'est donc Jean-Pierre Farandou qui va remplacer Guillaume Pépi le 1er novembre. C'est un ancien chef de gare. Est-ce que ce changement de tête, ça peut avoir un impact là dans le rapport de force et puis surtout dans les décisions qui vont être prises, ou est-ce que les jeux sont déjà faits d'ici le mois de janvier?
Alors, je pense que les jeux ne sont pas faits. Je pense que pour le moment, c'est un tour de chauffe. Monsieur Farandou a c'est une autre personnalité que Monsieur Pépi. Il connaît extrêmement bien l'entreprise. Je pense que les négociations et les discussions vont durer encore longtemps. Les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. La concurrence, c'est pas pour 2020, c'est même pas pour 2021, donc il y a encore un peu de temps. Ce qui est certain et ce qui est en revanche très urgent, c'est que à partir de 2020, la SNCF ne pourra pas continuer à être globalement déficitaire. Donc, nécessairement, il faudra faire relativement vite des changements dans l'organisation de l'entreprise pour qu'elle soit plus rentable. Moi, je suis un peu étonné de l'inquiétude des personnels. Je pense qu'il y a un capital humain très bon, de grande qualité, et qu'il y a des marges de négociation et des possibilités de mieux s'organiser. Donc, je pense que pour le moment, beaucoup de choses arrivent en même temps. Je suis pas certain que les syndicats aient choisi la bonne solution pour arriver à leur fin. On est dans une situation un peu violente. Je suis pas certain que ça rapportera grand-chose.
Merci beaucoup Marc Ivaldi. Je rappelle que vous êtes directeur d'études à l'EHESS, spécialiste en économie du ferroviaire et des transports. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Patrick Balkany a un premier pied hors de prison. La cour d'appel de Paris accepte la première des 2 demandes de remise en liberté de l'ex-maire de Levallois-Perret. Une première remise dans l'affaire de fraude fiscale qui lui a valu 4 ans de prison. Patrick Balkany reste cependant détenu dans l'attente de l'examen d'un second recours sur sa condamnation à 5 ans de prison pour blanchiment aggravé. Cette fois, la date de l'examen de ce recours de remise en liberté n'est pas fixée. À 71 ans et incarcéré depuis 6 semaines, il a demandé un peu d'humanité au juge en raison de son âge et de son état de santé. À noter que Patrick Balkany, à quoi qu'il arrive, fait appel de ces 2 condamnations sur le fond. Suite de l'affaire Karachi dans son volet financier, le parquet requiert de 18 mois à 7 ans de prison à l'encontre de 6 prévenus en cause des soupçons de commission occulte sur des ventes d'armement en marge de la campagne présidentielle d'Edouard Balladur. Un petit mot de la météo. Lever du jour, du soleil dans le sud-ouest, sur la Corse, en région parisienne et dans les Hauts-de-France. Nuages et pluie partout ailleurs. Côté température, elles iront de 8 à Strasbourg jusqu'à 19 à Marseille. Un temps plus sec l'après-midi avec des rayons de soleil qui font leur apparition sur le pourtour méditerranéen et en Normandie.